Bonjour, c'est une nouvelle émission d'Art et Regard et nous allons avoir le plaisir de parler aujourd'hui de jardinage et d'aquarelle. Notre invitée Annie Ovanissian, bonjour, vous êtes l'auteur d'un livre, Le jardin d'une aquarelliste, et nous allons essayer de comprendre avec vous aujourd'hui quel est le lien qui vous lie à ces arts, votre amour pour le jardinage et comment vous y êtes plongé. D'abord, donc, pour comprendre cet amour, nous allons déjà vous poser la question si vous considérez que l'aquarelle c'est un art, est-ce que le jardinage en est un?
Ah, le jardinage, ça peut tout à fait être de l'art. Il y a pas mal de paysagistes très connus qui parcourent le monde et qui font maintenant des choses vraiment exceptionnelles, avec des notions d'écologie, de plantes qui vont résister à la sécheresse, de plantes qui vont être faciles à cultiver.
Effectivement, quand on voit certains jardins, je pense maintenant à Versailles, on voit que c'est tellement bien fait, bien travaillé, surtout vu de loin, ce sont des vraies œuvres d'art. Les jardiniers ont un amour, une passion pour ce qu'ils font, et puis l'expression artistique, elle est toujours là. Alors parlons un peu de votre jardin, parce que c'est un jardin pas comme les autres, puisque vous vous y consacrez pleinement, et donc c'est un espace. Décrivez-nous un peu votre relation avec votre jardin.
Moi, c'est un tout petit jardin. Il fait à peu près 250 mètres carrés. Et en fait, ce jardin, quand je suis arrivée sur Clamart il y a 16 ans, il n'y avait rien du tout. Donc, il y avait un IF centenaire qui est magnifique et de la pelouse avec des parpaings tout autour. Donc, il a fallu le créer entièrement. Et un jardin, plus il est structuré en scénettes différentes, plus il semble grand. Donc j'ai commencé à faire des plans et à faire comme si j'avais des pièces dans mon jardin. Au lieu que ce soit les pièces de la maison, c'était des pièces extérieures. Voilà.
Si on parle de votre jardin, moi j'ai vu dans le livre donc des photos, c'est un très très joli jardin, multi-espace parce que dans chaque coin, il y a différents endroits dans ce jardin qui on n'a pas l'impression qu'on est dans un seul espace monotone. C'est très varié avec des coloris, avec des plantes très différentes. Est-ce que c'est ça qui fait la force de votre travail, justement le fait de ne pas avoir un teint unique? Et j'allais dire presque ennuyeux. Non, là, au contraire, c'est assez dynamique et c'est très varié.
Oui, complètement. Et des multi-espaces, donc il y a un espace avec des fruitiers, il y a un espace avec des fleurs, il y a un espace avec, on va dire, un mini potager dans une surface aussi petite, et il y a un espace avec de l'eau, ce qui est très important. Oui. Un petit bassin qui amène des insectes, qui amène la vie en fait dans le jardin. Et dans ce jardin, j'ai aussi une cabane qui est mon atelier privé pour peindre.
Est-ce que ce jardin constitue pour vous un lieu d'inspiration ou alors est-ce que vous pouvez changer de lieu de création et de pouvoir produire de la même manière avec la même créativité? Est-ce que vous êtes accroché à ce lieu vous-même?
Il a été le début de mes créations, puisqu'en fait, comme j'apprenais à la fois le jardinage et je commençais cette activité d'aquarelliste botanique, donc j'ai commencé à planter en fonction de mes goûts, donc à la fois pour le jardin, mais à la fois pour peindre. Et petit à petit, maintenant, je peux peindre en fait en fonction des demandes des végétaux dans différents endroits.
Notons que vous avez fait le chemin inverse. D'abord, vous étiez et vous êtes, donc vous avez une expérience dans les arts graphiques, dans la communication, vous avez travaillé dans la publicité. Donc vous avez fait le chemin inverse dans le sens où vous êtes passé de l'ordinateur à la création dans un sens classique, avec les pinceaux, etc. Alors que la plupart des gens font l'inverse.
Alors, j'ai commencé très tôt, donc je suis passée de la peinture à l'ordinateur, et de l'ordinateur, je suis revenue à la peinture, parce que bon, c'est vrai que le clavier et la souris est à ce niveau-là un peu monotone.
Justement, plein de gens aujourd'hui essaient de faire des choses sur les ordinateurs. Il y a des programmes qui sont très très adaptés, qui apportent des solutions vraiment exceptionnelles. Est-ce que la création et le plaisir changent selon que l'on soit devant l'ordinateur ou en création manuelle?
Moi, l'ordinateur, c'est un outil. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui remplace la main. La main de l'homme et le crayon. Et après, on s'en sert. Mais il ne peut pas remplacer. Alors, il y a effectivement des créations artistiques qui sont faites uniquement par informatique, mais elles sont quand même relativement, entre guillemets, froides. Elles n'ont pas d'âme.
Mais avec l'informatique, il y a beaucoup de gens qui travaillent d'une manière extraordinaire. L'informatique, ces programmes-là peuvent apporter certaines précisions, peuvent permettre de faire de la retouche, d'accentuer les contrastes, et puis surtout, ça va plus vite. Est-ce que pour vous, ce sont des avantages que vous considérez étant perdus?
Alors non, enfin par rapport à ma technique, moi l'aquarelle, l'ordinateur ne convient pas du tout. Non, il n'a pas sa place. Il peut convenir pour des choses modernes, pour des tableaux différents, quoi.
Vous avez commencé il y a plus de 10 ans, mais vous êtes déjà passé à l'enseignement vous-même. Pourquoi cette envie de partager, de transmettre avec les autres?
Alors, c'est une technique en fait qui n'est pas vraiment enseignée, enfin surtout en France. C'est une technique qui n'est pas connue, puisque c'est de l'aquarelle sèche. Donc 99% des personnes connaissent l'aquarelle humide. Donc j'ai voulu, moi, enseigner cette technique afin de la faire connaître et puis de la pousser aussi, d'aller encore plus loin dans la recherche de matière.
Mais l'aquarelle a quand même une histoire en France.
Oui, bien sûr. La personne, on va dire le peintre le plus connu, c'est donc Redouté avec les roses que tout le monde connaisse. Mais bon, à part ça, c'est vrai que c'est tombé un petit peu en désuétude, quoi.
Essayons d'entrer dans votre monde. Expliquez-nous comment vous passez de l'observation à la création d'une plante, par exemple, ou d'une fleur.
Oui, alors en fait, pour moi, le végétal parle quelque part. Donc, la fleur que je vais choisir, elle va m'avoir attirée. Donc, je vais la choisir, même si elle a des défauts, et surtout si elle a des défauts d'ailleurs. Il faut qu'elle soit complètement naturelle. Donc, je vais commencer par l'observer. Il y a beaucoup d'observations. La crayonner, comprendre comment elle est structurée. Et ensuite, après, c'est un long travail de retranscription, mais pas de la retranscription comme si c'était une photo. Il faut vraiment que cette fleur, ça soit, enfin, ce tableau, c'est un tableau, donc c'est une œuvre artistique. Il faut que j'y laisse passer à la fois mon tempérament, à la limite la façon dont je suis le jour où je peins, si je suis bien, si je suis pas bien, il faut qu'il y ait de la sensibilité, il faut qu'elle aussi exprime quelque chose, donc il faut qu'il y ait de l'âme.
L'aquarelle avait dans l'histoire une vocation photographique avant l'invention de la photographie. Êtes-vous en contradiction, ou plutôt peut-être en évolution par rapport à cet objectif historique de l'aquarelle ?
Complètement, l'objectif historique, c'était de répertorier aussi. Et la plupart des planches anciennes, on s'aperçoit que les végétaux ou les légumes ont complètement disparu. On ne les retrouvera jamais. Donc c'est comme une grande bibliothèque. Moi, c'est pas ça. C'est pas des planches botaniques, en fait, que je veux faire. Donc il n'y a pas l'étude scientifique. C'est plutôt l'approche artistique.
Que demande votre public ? La retranscription de l'objet tel qu'il est ou une touche personnelle de l'artiste ?
Non, justement, il n'est pas demandeur d'une photocopie, il est demandeur d'un respect quand même du végétal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que botaniquement ça se tienne, mais il faut qu'il y ait autre chose, un plus. Et c'est justement cette sensibilité et cette interprétation qui m'est propre, qui plaît au public et aux acheteurs de mes aquarelles.
Je vois là, sur une page de votre livre, une poire, pas la plus belle des poires peut-être, dans 24 heures et n'est même plus mangeable, pourquoi ne pas avoir choisi une très belle poire ?
On est dans une société où tout est formaté, il faut que tout soit calibré, impeccable. Et en fait, la nature et la vie, c'est pas ça. Chaque sujet a sa propre personnalité et si on se ressemblait tous, ça serait pas très 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 agréable, très drôle. Il faut vraiment, chaque poire est différente, même dans une même variété. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire retranscrire.
Quand on voit ce travail minutieux, là je regarde dans votre livre les différentes aquarelles, les différents dessins, on se dit c'est un travail qui prend beaucoup de temps pour faire par exemple une poire.
Justement, cette technique est une technique très longue. En moyenne, une poire, c'est 2 jours complets à 3 jours de travail. Donc pour une planche comme sur la couverture du livre pour la clématite, c'est 3 semaines de travail. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a très peu de peintres. Enfin, d'ailleurs, assez complètement, je suis toute seule, parce que c'est un temps de travail trop important. Oui, trop important.
Revenons à la poire. Elle va vieillir en quelques jours. Et si le temps passe, comment faites-vous pour travailler la poire sans nous faire subir ces changements d'état, justement ?
Alors, la poire tient relativement bien, mais c'est vrai que pour certaines fleurs, dans la journée, elles ont changé. Même des fois, en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes. Elles tournent, elles suivent la lumière, elles changent complètement. Donc ça, c'est à moi de figer l'instant. Donc il y a beaucoup d'observation, beaucoup de travail d'observation.
Alors si nos auditeurs, surtout ceux qui ont un jardin, veulent vous trouver, discuter avec vous, et en tout cas avoir votre livre, où est-ce qu'on peut trouver ou acheter ce livre ?
On peut l'acheter dans toutes les librairies, on peut l'acheter sur mon site internet. Alors Annie Ovanessian suffit. Sans ça, c'est www.aquarelle-ovanessian.com.
Quels sont les prix de vos tableaux et quelles sont les dimensions ?
Alors les dimensions, taille réelle. Donc la pomme, elle fera exactement le même format que ce que vous avez devant vous. Donc les tableaux diffèrent au niveau taille et au niveau prix en fonction de la complexité et de la taille du sujet et du temps de travail.
Est-ce que l'aquarelle peut porter sur d'autres éléments de la vie, au-delà de la nature, des fruits, des plantes, les hommes par exemple, la ville ?
Alors, cette technique de l'aquarelle sèche, on ne peut pas peindre de personnages, on ne peut pas peindre de paysages. Donc, elle se résume à vraiment une étude. On peut faire les insectes, on peut faire des poissons, on peut faire des oiseaux, des coquillages. On peut s'amuser, je me suis amusée à faire des pâtisseries. Mais on ne peut pas faire de paysage. Si on veut faire un paysage en aquarelle sèche, il faut que la base soit en aquarelle humide et on peut rehausser une partie, c'est-à-dire faire ressortir une partie d'un muret, une partie d'une maison, donc à l'aquarelle sèche pour lui donner plus de détails. Mais c'est impossible de faire l'ensemble du paysage avec cette technique.
Est-ce qu'il y a un profil de gens qui peut et d'autres qui ne peuvent pas faire de l'aquarelle sèche?
Oui, alors en fait, tout le monde peut faire de l'aquarelle sèche. Il n'y a vraiment qu'une seule chose où on ne peut pas pratiquer. Il faut beaucoup de patience et de la persévérance. Donc si on n'a pas la patience et la persévérance, il faut arrêter tout de suite. Il ne faut même pas commencer.
Est-ce qu'il y a des gens qui viennent justement pour consolider leur effort d'être patient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans la vie, essayent de, même dans le monde de l'entreprise, le fait de vouloir et de devenir patient, c'est un atout. Donc, avec vous, c'est le lieu idéal pour pouvoir justement consolider cela, cet effort d'être patient dans le travail et dans la vie.
C'est complètement vrai. J'ai pas mal d'élèves qui sont venus. Ceux qui avaient déjà pratiqué l'aquarelle avaient pratiqué bien évidemment l'aquarelle humide. Et à la base, c'est quand même un handicap, hein, parce qu'elles arrivent, elles font une aquarelle en 1 heure, 2 heures, et il faut que ça aille très vite. Et elles souhaitaient réellement faire de l'aquarelle sèche, donc elles ont persévéré, et maintenant, ce sont pratiquement les personnes qui sont les plus lentes et qui observent le mieux, parce qu'elles ont fait cette démarche d'occulter ce qu'elles avaient appris et de vraiment faire l'effort d'aller vers cette technique.
Est-ce que, après avoir acquis et créé ce jardin que vous avez à Clamart, est-ce que désormais il est impossible de revenir en arrière à une vie urbaine stricte que vous aviez auparavant?
C'est pas impossible, mais c'est de plus en plus difficile. Parce que qu'est-ce qu'on est bien dans la nature. Donc j'ai à la fois mon jardin à Clamart, mais j'ai aussi un jardin en Normandie, là en pleine nature. Et là, c'est très très difficile de revenir souvent.
Quelle est la place de l'aquarelle sèche dans les médias, dans l'édition?
Alors, il y a une place pour l'aquarelle sèche, mais c'est vrai que les temps sont difficiles. Et qu'au niveau de la presse, au niveau de l'édition, maintenant, il n'y a pratiquement plus d'illustrations, hein, ce sont des photos pour des raisons de coût. Donc l'aquarelle, c'est vraiment plutôt pour les expositions.
Vous êtes normande, agnovanicien, mariée à un Arménien dont vous portez le nom. Vous êtes allée une fois quand même en Arménie. Alors, comment avez-vous trouvé l'Arménie durant ce voyage?
Oui, le voyage commence déjà à être un peu ancien, ça a un peu plus de 10 ans. C'était une découverte aussi au niveau de la nature. J'ai trouvé que l'Arménie était vraiment très très belle au niveau des paysages, au niveau des églises, dans des sites isolés. Mais bon, je ne suis pas restée très longtemps, on a fait quelques jours, donc c'était un petit peu court, il faudra retourner.
Avez-vous pu découvrir la culture arménienne au-delà des plats?
Arménien, oui, la culture artisanale surtout, entre autres par l'association Chêne, où j'ai participé, enfin j'ai aidé à installer pendant plusieurs années. J'ai aussi une amie qui s'occupait de tout l'artisanat arménien, donc c'est vrai que là je suis bien imprégnée, on va dire.
Comment ça se passe pour les cours? Comment avoir plus d'informations?
Pour prendre des cours, tous les renseignements sont sur le site internet. Ce sont des cours une fois par mois, ce qui permet à des gens qui travaillent, qui ont une activité importante, de pouvoir quand même s'octroyer quelques heures par mois ou d'aquarelle. Donc ça, il n'y a pas de souci, il faut m'appeler et on voit ensemble. Juste préciser qu'il allait avoir une signature à Chêne. Voilà, le samedi 8 décembre de 14h à 18h.
Merci, Agnovanessian, pour avoir partagé votre passion avec nous. Évidemment, il est très difficile de parler de dessin, d'aquarelle, de montrer ces belles photos de votre jardin à la radio. Donc, le jardin d'une aquarelliste, Agnovanessian, aux éditions À la mesure des mots, un livre que vous pouvez trouver dans toutes les librairies. Le mot de la fin.
Le mot de la fin. Alors, je voulais quand même préciser que le livre, il n'y avait pas que mes aquarelles. On regarde chaque aquarelle des textes qui ont été écrits par une trentaine de personnes différentes, dont beaucoup du monde de la botanique.
Merci, Agnew Vanissian, et bonne continuation. Au revoir.